Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Donc voilà une nouvelle émission spéciale Noël.
Wow, une nouvelle émission sur les nouvelles.
Voilà, très bien. Donc, alors on va vous parler de trois auteurs. Donc de Truman Capote dont on vous a parlé il n'y a pas si longtemps que ça.
Voilà, hein, sacré personnage.
On avait fait une émission sur lui. Donc ensuite, enfin avant, vous aurez une petite nouvelle de Chantal Thomas qui s'appelle « Les animaux de la crèche ». Alors Chantal Thomas, on fera une émission sur elle, mais un peu plus tard. Mais on a déjà dû vous passer une petite...
On en a parlé, on a dit que c'était pas la même que celle qui fabriquait des soutiens-gorge.
Voilà, c'est ça. Hein. Et donc là, ben, voilà, c'est une petite histoire à propos puisqu'il s'agit des animaux de la crèche. Et puis, pour commencer, eh bien, on va vous passer une lettre du Père Noël,
wow.
Donc, de Tolkien. Donc, celle-ci, elle a été écrite en 1928. Et donc, il y a tout un recueil de lettres que Tolkien avait envoyées à ses enfants à partir de 1920. Et donc, on vous en avait déjà parlé un peu l'année dernière.
Oui, des cartes de Noël de la part du Père Noël.
Voilà.
Avec des belles aquarelles qu'il signait toujours.
Il y avait des très belles illustrations. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, eh bien, c'est Philippe qui fait le Père Noël et Jean qui fait l'ours polaire. Alors, on va vous laisser avec ces deux personnages.
Tout un programme.
Sommet du monde, pôle Nord, jeudi 20 décembre 1928. Mes chers garçons, un nouveau Noël, j'ai un an de plus, et vous aussi. Je suis toujours aussi bien portant, c'est très gentil de la part de Michael de le demander, et je tremble moins, mais c'est parce que l'éclairage et le chauffage ont été rétablis après l'année froide et noire que nous avons eue en 1927. Vous en souvenez-vous ? Je suppose que vous vous souvenez de qui ça a été la faute. Comment se porte ce cher vieil ours et que pensez-vous qu'il ait fait cette fois-ci ? Rien d'aussi dramatique qu'éteindre toutes les lumières. Il s'est contenté de dégringoler les escaliers jeudi dernier.
Qui avait laissé le savon sur les marches ? Pour moi ?
Nous commencions à sortir des réserves la première partie des paquets pour les mettre dans le vestibule. L'ours polaire a insisté pour en porter une pile énorme sur la tête et en prendre une grosse quantité dans les bras. Bing, bang, boum, plouf. Gémissement et grognement affreux. J'ai couru jusqu'au palier et j'ai vu qu'il avait dévalé les escaliers et qu'il était tombé sur le nez. Laissant derrière lui un sillage de ballons, de ballots, de paquets et autres objets, en écrasant certains dans sa chute. J'espère que vous n'avez pas reçu l'un d'eux par erreur. Je vous ai fait un dessin de la scène. L'ours polaire était plutôt grognon à l'idée que je la dessine.
Bien sûr, c'est normal.
Il dit que mes dessins de Noël se moquent toujours de lui et qu'une prochaine année, il enverra une image dessinée par lui-même, me représentant en train de faire l'idiot. Bien entendu, ça n'arrive jamais. Et puis, il ne sait pas assez bien dessiner.
Si, je sais, j'ai dessiné le drapeau à la fin.
Oui, il m'a fait bouger le bras, du coup, j'ai gâté le petit dessin de la lune en train de rire, avec en dessous l'ours polaire lui montrant le poing. Quand il s'est relevé, il a couru dehors et a refusé d'aider à tout ranger parce que je me suis assis sur les marches pour rire dès que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de dégâts que ça. C'est pourquoi la lune sourit. Mais la partie montrant l'ours polaire en colère a été coupée parce qu'il l'a salie. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pensé que vous aimeriez avoir un dessin de l'intérieur de ma nouvelle grande maison pour changer. Le hall principal se trouve sous le dôme le plus vaste où nous entassons les cadeaux prêts à être chargés dans les traîneaux, arrêtés devant les portes. L'ours polaire et moi l'avons construit presque entièrement nous-mêmes, le couvrant de carrelage bleu et mauve. Les rampes et le toit ne sont pas tout à fait droits.
Pour ma faute, le Père Noël a fait les rampes.
Oui, mais cela n'a pas vraiment d'importance. J'ai peint des arbres, des étoiles, des soleils et des lunes sur les murs. Puis j'ai dit à l'ours polaire, « Je te confierai la frise, F-R-I-S-E. » Il a répondu,
« Je pensais qu'il y avait assez de brise dehors. » Et vos couleurs à l'intérieur, pourpre, grise, bleutée, pâle, verdâtre, sont assez froides comme ça.
J'ai rétorqué, ne sois pas balourd, fais de ton mieux, comme le bon vieil ours que tu es, et quel résultat. Des glaçons tout autour du hall pour faire une brise, B-R-I-S-E, il ne savait pas très bien épeler, et des couleurs éclatantes, effrayantes pour réchauffer la brise. Eh bien, mes chers enfants, j'espère que vous aimerez ce que je vous apporte. Presque tout ce que vous avez demandé et bien d'autres petites choses que vous n'avez pas réclamées et auxquelles j'ai songé à la dernière minute. J'espère que vous vous échangerez assez souvent les éléments du train, de la ferme et les animaux. Ne croyez pas qu'ils soient exclusivement pour celui qui les a trouvés dans son bas. Prenez-en soin, car ce sont quelques-uns de mes plus beaux objets. Un baiser à Chris, un baiser à Michael, un baiser à John, qui doit beaucoup grandir puisqu'il ne m'écrit plus. J'ai tout bonnement dû opter pour des peintures au jugé, j'espère qu'elles lui plairont. L'ours polaire les a choisies, il dit qu'il sait ce que John aime, parce que John aime les ours. Votre affectueux Père Noël.
Et mes affectueuses pensées, ours polaire.
Voilà. La lettre du Père Noël.
Pas mal d'avoir un père ou un grand-père comme Tolkien.
Ouais, hein. Alors, de son vrai nom, John Ronald Reuel Tolkien, donc plus connu hein, sous la forme de J.R.R. Tolkien. Donc, il est écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d'université britannique. Il est né le 3 janvier 1892 à Bloemfontein, dans l'État libre d'Orange, et il est décédé le 2 septembre 1973 à Bournemouth. Donc, ses deux romans les plus connus sont, je vous le laisse deviner, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, qui prennent place dans l'univers de la fiction de la Terre du Milieu, dont il développe la géographie, les peuples, l'histoire et les langues durant la majeure partie de sa vie.
Oui, un succès phénoménal, hein, Le Seigneur des Anneaux. Hein. Voilà. Alors, Mireille, est-ce que tu connais la différence entre philologue et philosophe? On va jouer ça à la France Culture.
Pas du tout. D'ailleurs, en disant ça, je me disais, alors c'est quoi exactement un philologue?
Eh bien, j'ai regardé. Le philologue, il inventorie, il enregistre et ordonne des faits littéraires. Enfin, pour faire simple, il étudie, fait une étude littéraire d'une langue, tandis que le philosophe, il étudie la science de la connaissance déjà produite et passée. Donc c'est plutôt la philologie, je ne savais pas non plus, c'est plutôt l'étude littéraire d'une langue au travers de la grammaire, etc.
Ah, très bien.
Voilà, donc très savant, monsieur Tolkien.
Bah oui, en effet, voilà. Puis nous, on sera moins bêtes.
En se couchant.
En se couchant, voilà. Alors, ce que je vous propose d'écouter maintenant, donc c'est la petite nouvelle donc, de Chantal Thomas, « Les animaux de la crèche ». Qui sont extraits de La vie rêvée des petites filles. Et donc cette nouvelle est lue par Françoise.
Les animaux de la crèche. En ce mois de décembre, Livia a été chargée d'une mission d'extrême confiance, qu'elle se rende au quartier de la Minerva afin d'acheter des animaux pour la crèche de Noël. En déballant comme chaque année les petites figurines de plâtre, le père a été frappé du mauvais état de l'âne qui avait le bout des oreilles écorné. En y regardant de plus près, il a trouvé que le bœuf avait piètre mine et qu'un mouton tout de guingois, noirci par les années, faisait pitié. Pitié ? Livia était étonnée d'entendre ce mot dans la bouche de son père. Il ne l'avait jamais employé pour des gens, mais il était vrai qu'un âne aux oreilles cassées, ce n'était plus possible. Comme pour confirmer la pensée de sa fille, le père avait conclu tout haut, le triste aspect de notre crèche familiale départ dans l'allégresse de cette nuit unique. La mère avait soupiré, c'était sa manière de donner son avis. Livia avait été choisie pour aller faire les achats. Le mercredi suivant, jour de catéchisme, avait paru un jour approprié, puisque la petite fille devait, de toute manière, se rendre dans ce quartier romain. Dans l'air vif, un peu piquant, Livia marche d'un pas joyeux. Elle considère la tâche de renouveler la crèche comme un honneur et comme une aubaine. Ses sœurs, au petit déjeuner, cachaient mal leur dépit. Pourquoi elle ? Parce que, alléluia, alléluia, ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste, terre, ouvre-toi, que germe le sauveur, alléluia. Un abbé, qui marchait du même pas qu'elle, ralenti, s'arrête devant une vitrine. Il fixe un petit anorak noir de coupe stricte. Il a l'air d'hésiter entre l'anorak et une ample robe de gabardine. Ils entrent ensemble dans le magasin, Livia et l'abbé. Et tandis que celui-ci se dirige vers les vêtements sacerdotaux pour en palper l'étoffe, en respirer le délicieux parfum de neuf, il aimerait pouvoir tout acheter, l'anorak, la robe, les surplis de toile fine et les 12 paires de chaussettes de soie mauve pour l'achat desquelles le cardinal Acquaviva l'a envoyé en ville, Livia demande d'une voix décidée à voir les animaux de la crèche. « Ils sont ici, sous tes yeux, lui dit gentiment le vendeur. En effet, des ânes de toutes dimensions et des bœufs rutilants sont rangés ensemble à côté de séries de vierges, de Saint-Joseph, de rois-mages et d'enfants Jésus. » Livia commence à penser son choix en fonction des dimensions de la crèche, quand soudain, elle aperçoit, posé à même le sol, dans un coin, un stock de crocodiles. La commande d'un cobie imbécile, éructe le vendeur. Livia, fascinée, ne l'entend pas. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste, alléluia, alléluia, elle veut un crocodile, et même plusieurs, puisqu'elle constate qu'elle a assez d'argent. 8 crocodiles, s'il vous plaît, monsieur. Maintenant, il faut penser les choses ainsi. Sur sa couche de paille, l'enfant Jésus repose. Il grelotte de froid et de peur, car ce n'est pas pour le réchauffer de leur souffle que s'avancent vers lui, par lente reptation, 8 crocodiles visqueux.
Ah, vous avez jamais vu ça, hein, des crocodiles dans la crèche.
Et pourquoi ils n'auraient pas le droit d'être dans la crèche?
Bah oui, après tout. Parce que sur les bords du Nil, il y a bien des crocodiles quand même.
Ils sont partis, n'en parlons plus.
Voilà. Donc, voilà. Donc, j'avais trouvé drôle cette petite...
Ouais, c'est amusant.
Cette petite histoire.
Un peu iconoclaste.
Donc, Chantal Thomas, elle est née le 20 janvier 1945. Elle est romancière, essayiste, dramaturge, scénariste, spécialiste de la littérature et universitaire française. Elle va être élue à l'Académie française le 28 janvier 2021 et succède ainsi à Jean d'Ormesson au fauteuil numéro 12. Elle a été révélée au grand public avec Les Adieux à la Reine, prix Femina en 2002, qui a été adapté au cinéma d'ailleurs par Benoît Jacquot en 2012, prix Louis-le-Duc.
Le Duc, oui.
Excusez-moi, c'est
la belle contrepétrie.
Et la dyslexie.
Un joli film. Tu l'as vu, Les Adieux à la Reine?
Eh bah, ben, pas du tout.
Eh bah, ben, c'est pas mal. C'est
je n'ai pas lu non plus le livre.
Non, je n'ai pas lu le livre. Alors, Les Adieux à la Reine, c'est la chronique de la vie de cour au château de Versailles, juste après la prise de la Bastille. Donc, évidemment, il y a toute la débâcle des serviteurs, des nobles qui commencent à lâcher la famille royale. Et puis, il y a Léa Seydoux qui incarne la lectrice de Marie-Antoinette. Mmh. Et qui, elle, reste fidèle à la reine, et ça va lui coûter cher, j'en dis pas plus.
On s'imagine que ça l'a amené à la guillotine. Donc, voilà. Alors maintenant, on va... Vous allez écouter donc, un souvenir de Noël de Truman Capote. Donc, c'est un texte qui a été lu, écrit en 1956. Et donc, il est lu par Philippe et moi-même.
Voilà. Mireille.
Voilà, Mireille. Donc, bah voilà, on vous laisse avec Truman. Avec, Truman.
Un souvenir de Noël. Imaginez un matin de fin novembre. Un matin annonciateur d'hiver, voici plus de 20 ans. Représentez-vous la cuisine d'une vaste et vieille demeure dans un bourg de campagne. La pièce maîtresse est un grand fourneau noir flanqué d'une vaste table ronde et d'une cheminée avec, devant, deux fauteuils à bascule. Aujourd'hui, justement, la cheminée a lancé son premier grondement hivernal. Une femme, aux cheveux blancs, coupés courts, se tient à la fenêtre. Elle porte des chaussures de tennis et un tricot gris informe sur une robe d'été en calicot. Elle est petite et vive comme une poule naine, mais à cause d'une longue maladie de jeunesse, ses épaules sont cruellement voûtées. Son visage, remarquable, n'est pas sans rappeler celui de Lincoln, anguleux comme le sien, hâlé par le soleil et le vent, mais délicat aussi, avec une ossature fine, des yeux timides et ambrés, comme du chéri.
Ah, mais ça, c'est un temps à faire des cakes.
Celui à qui elle s'adresse, c'est moi. J'ai 7 ans, elle en a 60 et quelques. Nous sommes cousins, très éloignés, et avons toujours habité ensemble, enfin, aussi loin que je me souvienne. Il y a d'autres personnes dans la maison, des gens de la famille, mais bien qu'ils aient autorité sur nous et nous fassent souvent pleurer, en fin de compte, nous ne remarquons guère leur présence. Nous sommes les meilleurs amis du monde, elle m'appelle Buddy, en mémoire d'un garçon qui fut autrefois son meilleur ami. Ce Buddy-là est mort dans les années 1880, quand elle n'était qu'une enfant, une enfant qu'elle est restée.
Je l'ai senti au sortir du lit. La cloche du tribunal avait un son si froid et si clair, et pas un chant d'oiseau. Ils sont partis vers les pays chauds, tu parles. Hé, Buddy, arrête de t'empiffrer de gâteau et va chercher le landau. Aide-moi à trouver mon chapeau. On a 30 cakes à préparer.
C'est toujours la même chose, un beau matin de novembre, comme pour inaugurer officiellement la période de Noël qui réveille son imagination et attise la flamme de son cœur, mon ami m'annonce...
C'est un temps à faire des cakes. Sors le landau. Aide-moi à trouver mon chapeau.
Le chapeau a réapparu, un chapeau de paille, à large bord, orné de roses en velours fané par le grand air. Elle le tient d'une aïeule plus sensible qu'elle à la mode. Ensemble, nous poussons notre landau, une voiture d'enfant hors d'usage, jusqu'au jardin avant d'atteindre un bosquet de pacaniers. Ce landau, c'est le mien. Disons qu'on l'a acheté pour moi à ma naissance. L'osier s'effiloche et les roues flageolent comme les jambes d'un ivrogne. Mais c'est un allié fidèle. Au printemps, nous l'emmenons dans les bois et le remplissons de fleurs, d'herbes aromatiques et de fougères sauvages pour garnir les pots de la véranda. L'été, on y entasse tout l'attirail du pique-nique et les gaules en canne à sucre et on le descend au bord d'un ruisseau. Il a aussi ses emplois hivernaux, comme chariot pour transporter les bûches de la cour à la cuisine et comme lit douillet pour Queenie, notre increvable petit ratier orange et blanc qui a survécu à la maladie de Carré et à 2 morsures de crotal. En ce moment même, Queenie trotte à côté du landau. 3 heures plus tard, nous sommes de retour dans la cuisine à décortiquer une pleine cargaison de pécans tombés de l'arbre. On s'est cassé le dos à les ramasser, pas facile de les dénicher. Le plus gros ayant été gaulé et vendu par d'autres que nous, les propriétaires du verger. Cachés sous les feuilles, parmi l'herbe gelée et ses leurres, crac, crac-alac, un craquement joyeux, des éclats de tonnerre en miniature s'élèvent à mesure que les coquilles cèdent et que l'amas doré de matière ivoire, douce et huileuse, grossit dans la coupe de verre opale. Queenie demande à y goûter, et de temps à autre, mon ami lui en glisse un petit morceau, tout en insistant bien sur le fait que nous en privons.
Il ne faut pas, Buddy, si on commence, on ne s'arrêtera pas. Il y en a déjà tout juste assez, on a 30 gâteaux à faire.
La pénombre envahit la cuisine. Le crépuscule transforme la fenêtre en miroir. Nos reflets se mêlent à la lune montante, tandis que nous nous activons près de l'âtre à la lueur des flammes. Et quand enfin la lune est à son zénith, nous jetons la dernière coquille dans le feu et, avec un même soupir, la regardons s'enflammer. Le landau est vide, la coupe, elle, est garnie à ras-bord. Nous dînons, biscuits froids, bacon, confiture de mûre, en discutant du lendemain. Demain commence la phase du travail que je préfère, les courses. Cerises et cédras, gingembre, vanille et ananas d'Hawaï en conserve, écorce confite, raisin sec, noix, whisky et, j'oubliais, un monceau de farine et de beurre et des œufs, des épices et des aromates à foison. C'est un poney qu'il nous faudrait pour ramener le landau à la maison. Mais avant de penser aux achats, se pose la question de l'argent. Nous n'en avons ni l'un ni l'autre. Si ce n'est de misérables oboles lâchés à l'occasion par des gens de la maison, une pièce de 10 cents passe alors pour une forte fortune. Ou ce que nous tirons nous-mêmes de nos activités diverses. Brocante de charité, vente de seaux de mûres cueillis à la main, de confitures, gelées de pommes et conserves, de pêche maison, ou encore de couronnes de fleurs pour les enterrements et les mariages. Une fois, nous avons gagné le 79e prix, $5, à un concours national sur le football. On ne connaît rien au football, mais on participe à tous les concours qui se présentent. Pour le moment, tous nos espoirs reposent sur le gros lot de $50 000 offert à qui trouvera une nouvelle marque de café. Nous avons proposé Eden. Et après bien des hésitations, car mon ami pensait que c'était peut-être blasphématoire, le slogan « À Eden, on dit Amen ». À vrai dire, notre seule initiative vraiment rentable fut le musée des curiosités et des phénomènes que nous avions monté dans une remise de l'arrière-cour voici deux étés. La curiosité, c'était une lanterne magique à double lentille projetant des vues de Washington et de New York et qu'une cousine qui s'était rendue là-bas nous avait prêtée. Elle avait d'ailleurs été furieuse en découvrant la raison de cet emprunt. Quant au phénomène, c'était un poussin à trois pattes couvé par une de nos poules. Tout le quartier avait voulu voir à quoi il ressemblait. En prenant 5 cents pour les adultes et 2 pour les enfants, nous avions pu récolter la coquette somme de $20 avant que le musée ne ferme pour cause de décès de sa principale attraction. Bon an, mal an, nous arrivons quand même à nous constituer une cagnotte de Noël, la caisse des cakes. Ce pécule, nous le conservons dans un vieux porte-monnaie en perles cachées sous une lame disjointe du plancher, elle-même située sous un pot de chambre, lui-même placé sous le lit de mon ami. Le porte-monnaie quitte rarement ce lieu sûr, sauf pour procéder à un dépôt ou, comme chaque samedi, à un retrait. Car le samedi, j'ai droit à 10 cents pour aller au cinéma. Elle-même n'y est jamais allée, et n'en a pas non plus l'intention.
Je préfère t'entendre me raconter l'histoire, Buddy. Comme ça, je me l'imagine mieux. En plus, une personne de mon âge ne doit pas s'abîmer les yeux. Quand le Seigneur viendra, il s'agira d'y voir clair.
Outre qu'elle n'a jamais vu de film, elle n'a jamais mangé au restaurant, ne s'est jamais éloignée de chez elle de plus de 10 km. N'a jamais reçu ni envoyé de télégramme, jamais rien lu d'autre que des illustrés et la Bible, utilisé de cosmétiques, dit de gros mots, souhaité du mal à quelqu'un, menti sciemment, laissé un chien affamé le rester. Voici en revanche quelques-unes des choses qu'elle a faites et fait encore. Oxyre avec une binette, le plus gros crotal jamais vu dans le comté, 16 sonnettes, prisé en cachette, apprivoisé des colibris, essayez donc pour voir, jusqu'à ce qu'il se pose sur son doigt, raconter des histoires de fantômes, nous croyons tous les deux aux fantômes, qui vous donnent des frissons même en plein mois de juillet, parler toute seule, partir se promener sous la pluie, cultiver les plus beaux japonicas de la commune, connaître la recette de toutes les médications indiennes d'antan, y compris un remède miracle contre les verrues. Le dîner terminé, Nous nous retirons dans la chambre située à l'autre bout de la maison, où mon ami dort dans un lit de fer peint en rose, sa couleur préférée, et recouvert d'un couvre-pied en patchwork. Sans un bruit, grisés par les délices de la conspiration, nous extirpons le porte-monnaie en perles de sa cachette et en répandons le contenu sur le dessus de lit. Des billets de 1 dollar roulés serrés, verts comme des bourgeons de mai, de sombres pièces de 50 cents assez lourdes pour tenir closes les paupières d'un mort, d'adorables pièces de 10 cents, les plus vives, les seules à vraiment teinter. Des 5 et des 25, lisses et usées comme des galets de rivière. Mais surtout, un affreux tas de pennies à l'odeur âcre. L'été dernier, des pensionnaires de la maison s'étaient engagés à nous verser un penny toutes les 25 mouches tuées. Oh, ce carnage en août, le nombre de mouches qui ont pris le chemin du paradis. On n'était pas fiers de nous pour autant. En comptant les pennies, je nous revois en train de recenser nos mouches. On n'a ni l'un ni l'autre la tête aux chiffres. On compte lentement, on perd le fil, on recommence. D'après les calculs de mon ami, nous avons 12,73 $. D'après les miens, 13 $ tout rond.
J'espère bien que tu t'es trompé, Buddy. On ne rigole pas avec le 13. Les cakes vont retomber ou envoyer quelqu'un au cimetière. Tiens, pour rien au monde, je ne me lèverai le 13 du mois.
Et c'est vrai, elle passe toujours la journée du 13 au lit. Par acquis de conscience, nous retirons donc un penny et le jetons par la fenêtre. De tous les ingrédients qui entrent dans la confection de nos cakes, le whisky est le plus cher, mais aussi le plus difficile à trouver. Dans notre état, il est interdit à la vente. Mais chacun sait que l'on peut en acheter une bouteille à Monsieur Haha Jones. Et le lendemain, une fois expédiées les courses plus ordinaires, nous nous mettons en route vers l'établissement de Monsieur Haha. Un café dancing au bord de la rivière, un lieu de perdition selon la rumeur, où l'on sert aussi des fritures. Nous y sommes déjà allés, et pour le même motif. Mais les années précédentes, nous avions eu affaire à la femme de Monsieur Aha, une indienne à la peau couleur de teinture d'iode, aux cheveux décolorés et d'un naturel perpétuellement las. En fait, son mari, on ne l'a jamais vu. On sait seulement qu'il est indien lui aussi, un géant aux joues tailladées par le rasoir. On l'appelle Aha à cause de son air maussade. C'est un type qui ne rit jamais. Comme nous approchons de son café, une grande cabane de rondins, festonnée au-dedans comme au-dehors de guirlandes d'ampoules nues et bariolées, bâtie sur la berge boueuse de la rivière, dans l'ombre des arbres, là où la mousse pend en brume grise à travers les branches. Nous ralentissons le pas. Même Queenie cesse de folâtrer et reste collée à nous. Il y a déjà eu des morts chez Haha. Coupée en morceaux, la tête fracassée, une affaire va être jugée au tribunal le mois prochain. Bien entendu, ces faits divers ont lieu la nuit, quand les lumières colorées dessinent d'étranges motifs et que le phoneau lance ses complaintes. Dans la journée, le café, désert, ne paie pas de mine. Je frappe à la porte. Queenie aboie. Mon ami lance.
Madame Haha, vous êtes là? Il y a quelqu'un?
Des pas. La porte s'ouvre, notre sang se fige. C'est Monsieur Aha Jones en personne. En effet, c'est un colosse. En effet, il est plein de cicatrices. En effet, il ne sourit pas. Pas du tout. Il nous lance un regard noir par les fentes obliques de ses yeux sataniques et s'enquiert avec force. Qu'est-ce que vous lui voulez à Aha? Sur le moment, nous sommes trop pétrifiés pour lui répondre. Puis, retrouvant à moitié sa voix, mon ami parvient tout juste à murmurer.
S'il vous plaît, monsieur A, nous voudrions un litre de votre meilleur whisky.
Ses yeux s'inclinent un peu plus. Qui l'eût cru? Aha sourit, rigole même. C'est lequel des deux qui picole?
C'est pour faire des cakes, monsieur A, des gâteaux.
Il retrouve son sérieux, fronce les sourcils. C'est pas bien de gaspiller du bon whisky comme ça. » Il se retire pourtant dans l'ombre du café et après quelques secondes reparaît avec à la main une bouteille sans étiquette d'un liquide jaune marguerite. Il la fait miroiter dans la lumière du soleil et annonce « 2 $ !» Nous le payons en toute petite monnaie. Tout à coup, alors qu'il fait sauter les pièces dans sa main comme une poignée de dés, son visage s'adoucit. « Je vais vous dire une chose, » propose-t-il en renversant l'argent dans notre bourse en perles. « Envoyez-moi en échange un de vos cakes et on n'en parle plus. » Sur le chemin du retour, mon ami fait remarquer.
« Eh bien, voilà ce qui s'appelle un homme charmant. On doublera la dose de raisin dans le sien. »
Gavé de charbon et de bûches, le fourneau noir rougeoie comme une citrouille éclairée de l'intérieur. Les fouets à eux s'activent, les cuillères virevoltent dans les jattes de beurre et de sucre. La vanille adoucit l'air, le gingembre l'épice. Titillant les narines, les parfums mêlés emplissent la cuisine, envahissent la maison et, poussés par les volutes de la cheminée, s'échappent au dehors. En 4 jours, notre œuvre est accomplie. 31 cakes imbibés de whisky se prélassent sur les rebords des fenêtres et les étagères. Pour qui sont-ils ? Pour des amis. Pas forcément du quartier. D'ailleurs, la plupart iront à des personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Peut-être qu'une fois, voire jamais. À des gens qui ont frappé notre imagination, comme le président Roosevelt, comme le révérend J.C. Lucet et Madame, missionnaire baptiste à Bornéo, venu donner des conférences l'hiver dernier. Ou le petit Rémouleur qui vient en ville de Foilan. Ou Abner Packer, le chauffeur du car de Mobile, avec qui nous échangeons des saluts tous les jours quand il passe dans une trombe de poussière sur les coups de 6 heures. Ou encore les Winston, un jeune couple de Californie dont la voiture était tombée en panne un après-midi devant la maison et avec qui nous avions passé une heure agréable à bavarder sous la galerie. Le jeune Mr. Winston nous avait pris en photo, la seule qu'on ait jamais faite de nous. Est-ce parce que mon ami est timide avec tout le monde, sauf les étrangers, que ces mêmes étrangers, ou de très vagues connaissances, nous semblent être de nos vrais amis ? Je crois que oui. De même, les albums où nous conservons les mots de remerciement à l'entête de la Maison Blanche, les courriers épisodiques de Californie et de Bornéo et les cartes postales à dessous du Rémouleur nous donnent-ils le sentiment d'être reliés à des mondes pleins d'animation par-delà notre cuisine et sa vue sur un ciel barré par l'horizon. À présent, une branche de figuier dénudée par décembre griffe la fenêtre. La cuisine est vide, les gâteaux sont partis. Nous avons porté le dernier hier au bureau de poste où le prix des timbres a eu raison de notre bourse. Nous voilà à sec. J'ai le moral en berne, mais mon ami tient à fêter ça avec les 2 doigts de whisky restant dans la bouteille de Hara. Queenie a droit à une cuillerée dans un bol de café. Elle aime le café fort et parfumé à la chicorée. Nous nous partageons le reste dans des coupes à dessert. Nous sommes tous deux intimidés à l'idée de boire du whisky pur. Le goût nous tire des grimaces et des frissons d'aigreur. Mais bientôt, nous nous mettons à chanter, ensemble, mais des chansons différentes. Je ne connais pas les paroles de la mienne, sauf « come on along to the dark town, stretchers ball ». En revanche, je suis bon danseur. C'est ce que je veux faire plus tard, danseur de claquettes au cinéma. Mon nombre de danseurs qui s'agitent sur les murs, nos voix qui font trembler la porcelaine, et nous, hilars, comme si des mains invisibles nous chatouillaient. Queenie se roule sur le dos en labourant l'air de ses pattes, ses babines noires étirées en une sorte de sourire. Au-dedans, je brûle, je flamboie comme ces bûches qui s'affaissent, insouciant comme le vent dans la cheminée. Mon ami valse autour du fourneau, l'ourlet de sa pauvre jupe de calicot pincée entre ses doigts comme si c'était une robe de soirée.
Show me the way to go home,
chante-t-elle, et ses chaussures de tennis crisse le sol.
Show me the way to go home.
Entrent alors deux membres de la famille, très remontés, forts de leurs yeux qui tensent, de leur langue qui cingle. Écoutez ce qu'ils ont à nous dire avec leurs mots qui se bousculent en un duo furieux. Un enfant de 7 ans, et qui sent le whisky? Mais as-tu perdu la raison? En donner à un enfant de 7 ans. Mais tu es détraqué, tu cours à ta perte. La cousine Kate, tu t'en souviens? Et l'oncle Charlie? Et le beau-frère de l'oncle Charlie? Honte à toi, scandale, humiliation. À genoux, prie, implore le Seigneur. Queenie file sous le fourneau. Mon ami fixe ses chaussures, le menton tremblant. Elle soulève sa jupe, se mouche et s'enfuit dans sa chambre. Longtemps après que la ville s'est endormie et que la maison est devenue silencieuse, hormis les carillons des horloges et le crachotement des feux qui expirent, elle pleure. Elle pleure encore dans son oreiller, déjà trempée comme un mouchoir de veuve. « Ne pleure pas, lui dis-je, assis au bout de son lit, frissonnant malgré ma chemise de nuit en flanelle qui sent encore le sirop pour la toux de l'hiver dernier. « Ne pleure pas, la suppliai-je en jouant avec ses orteils, en lui chatouillant les pieds. Tu es trop vieille pour ça. »«
C'est justement parce que je suis trop vieille, vieille et folle. »«
Mais non, pas folle, drôle, plus drôle que n'importe qui. Écoute, si tu n'arrêtes pas de pleurer, tu seras trop fatiguée demain pour qu'on puisse aller couper un sapin. » Elle se redresse. Queenie saute sur le lit, ce qui lui est défendu, pour lui lécher les joues.
Je sais où on pourra en trouver de beaux, Buddy, et du houx aussi, avec des boules grosses comme tes yeux. C'est très loin dans les bois, plus loin qu'on n'est jamais allé. C'est là-bas que papa allait nous chercher les arbres de Noël. Il les rapportait sur son dos. Ça fait 50 ans. Bon, eh bien moi, j'ai hâte d'être à demain.
Le lendemain matin, la gelée blanche lustre les herbes, suspendue sur l'horizon. Le soleil rond comme une orange et orange comme une lune de canicule fait briller la forêt argentée par l'hiver. Un dindon sauvage lance son cri, un cochon en goguette grogne dans les fourrés. Bientôt, au bord de l'eau vive qui nous vient aux genoux, il faut abandonner le landau. Queenie s'engage la première et traverse en aboyant contre la vigueur du courant, contre cette eau glacée à vous flanquer une pneumonie. Nous la suivons en tenant nos chaussures et notre matériel, une hachette et un sac de toile au-dessus de nos têtes. Encore un bon kilomètre d'épines, de bogues, de ronces impitoyables qui s'accrochent à nos vêtements, d'aiguilles de pin roussies, rehaussées de champignons éclatants et de plumes oubliées par les oiseaux. Ici et là, un froissement, un battement d'ailes, une transe de cris stridents nous rappelle que tous n'ont pas migré vers le sud. Sans cesse, le chemin serpente à travers des flaques de soleil jaune citron et des tunnels de plantes grimpantes, noires comme des fours. Encore un ruisseau à franchir. Nous dérangeons une flottille de truites tachetées qui fait mousser l'eau autour de nous. Des grenouilles larges comme des assiettes s'entraînent à plonger sur le ventre. Des ouvriers castors construisent un barrage. Sur l'autre rive, Queenie s'ébroue et tremble. Mon amie frissonne, elle aussi, non de froid, mais d'enthousiasme. Une des roses effrangées de son chapeau perd un pétale lorsqu'elle lève la tête pour inspirer l'air saturé de senteurs de pin.
« Nous y sommes presque. Tu sens cette odeur, Buddy ?»
me dit-elle comme si nous approchions d'un océan. En effet, c'est une espèce d'océan. Des hectares embaumés de sapins de Noël, de houx aux feuilles piquantes, de baies rouges et brillantes comme des clochettes chinoises sur lesquelles des corbeaux noirs fondent en croassant. Ayant bourré nos sacs avec assez de verdure et de pourpre pour décorer une douzaine de fenêtres, nous nous mettons en devoir de choisir un arbre.
Il faut qu'il ait deux fois la taille d'un petit garçon, pour qu'un petit garçon ne puisse pas voler l'étoile.
Celui que nous choisissons fait deux fois ma hauteur. Un brave et beau colosse qui résistera à 30 coups de hachette avant de s'effondrer dans un cri éraillé et déchirant. Traînant l'arbre derrière nous comme une bête abattue, nous entamons le long trajet du retour. Tous les 10 mètres, nous renonçons assis et haletants. Mais nous avons la force des chasseurs triomphants, une force qui, avec le parfum viril et glacé de l'arbre, nous ravive et nous stimule. Au crépuscule, une pluie de compliments accompagne notre retour au village par la route d'argile rouge. Mais mon amie reste prudente et évasive quand les passants font l'éloge du trésor couché sur le landau. « Quel bel arbre, d'où vient-il ?»«
Oh, par là !»
murmure-t-elle d'un air vague. À un moment donné, une voiture s'arrête. Et l'indolente épouse du riche propriétaire du moulin sort sa tête et, de sa voix au perché, lui dit « Je vous en donne 25 cents tout de suite !» D'ordinaire, mon amie hésite à dire non. Mais là, elle refuse aussitôt de la tête.
« Même un dollar, on n'en voudrait pas. »
La femme du minotier persiste. « Un dollar, et puis quoi encore ?» 50 cents, c'est ma dernière offre. Allez, ma brave dame, vous irez en chercher un autre. Pour toute réponse, mon ami répond gentiment.
Ça m'étonnerait. Rien n'est en double, tout est unique.
À la maison, Queenie s'affale devant le feu et s'endort jusqu'au lendemain en ronflant comme un être humain. Au grenier, il y a une malle qui contient une boîte à chaussures pleine de queues d'hermine. Reste de la cape d'opéra d'une étrange dame qui jadis loua une chambre dans la maison. Des rouleaux de guirlandes argentées jaunies par le temps, une étoile, argentée elle aussi, un court chapelet d'ampoules électriques en forme de bonbons, en piteux état et à coup sûr dangereuse. D'excellentes décorations en soi, mais voilà, mon ami veut un sapin qui resplendisse, comme un vitrail baptiste. Qui ploie sous une avalanche de décorations. Or, les splendeurs japonaises du drugstore ne sont pas dans nos moyens. Nous faisons donc comme nous avons toujours fait, en nous installant des journées entières à la table de la cuisine armée de ciseaux, de crayons de couleur et de piles de papier coloré. Je trace des silhouettes que mon ami découpe. Beaucoup de chats, de poissons aussi, parce que c'est facile à dessiner. Des pommes, des pastèques, quelques anges aux ailes de papier d'argent récupérées dans le chocolat Hershey. Pour fixer ces créations sur le sapin, on utilise des épingles à nourrice. Pour la touche finale, nous parsemons les branches de brins de coton, ramassés en août à cet effet. Main jointe, mon ami juge de l'effet produit.
Honnêtement, Buddy, on en mangerait, non ?
Queenie essaie d'ailleurs de croquer un ange. Après avoir tressé et enrubanné des couronnes de houx pour toutes les fenêtres de la façade, nous nous attaquons à la confection de cadeaux pour la famille. Des écharpes teintes pour les dames et, pour les messieurs, un sirop maison à base de citron, de réglisse et d'aspirine à prendre aux premiers symptômes de refroidissement et au retour de la chasse. Mais quand vient l'heure de nos cadeaux respectifs, mon ami et moi nous séparons pour œuvrer dans le secret. J'aimerais lui acheter un couteau à manche de nacre, un poste de radio, une bonne livre de cerises enrobée de chocolat. Nous en avons goûté un jour et depuis, elle le jure.
Je pourrais ne vivre que de ça, Buddy. Le Seigneur m'en est témoin. Et ce n'est pas blasphémer son saint nom.
À la place, je lui fabrique un cerf-volant. Elle aimerait m'offrir un vélo. Elle me l'a dit des millions de fois.
Si seulement je le pouvais, Buddy. C'est assez triste de se passer de ce qu'on a soi-même envie. Mais, bon sang de bonsoir, ce qui me fait mal au ventre, c'est de ne pas pouvoir donner aux autres ce que j'aimerais qu'ils aient. Mais un de ces jours, j'y arriverai, Buddy. Je te trouverai un vélo. Ne me demande pas comment. Peut-être que je le volerai.
Je suis à peu près certain qu'elle est en train de me confectionner un cerf-volant. Le même que l'année dernière et que l'année d'avant. L'année encore avant, nous nous étions offert des lance-pierres. Mais ça ne me dérange pas, car on est des as du cerf-volant. On étudie le vent comme des marins. Mon ami, plus doué que moi, est capable de faire décoller un cerf-volant quand la brise est trop faible pour soutenir les nuages. La veille de Noël, dans l'après-midi, nous réunissons 5 cents et partons pour la boucherie acheter à Queenie son cadeau traditionnel, un bon os de bœuf à ronger. L'os, enveloppé de papier fantaisie, est placé tout en haut du sapin, près de l'étoile d'argent. Queenie l'a repéré. Assise au pied de l'arbre, elle le fixe, le museau levé, au comble de la convoitise. Quand arrive l'heure du coucher, elle refuse de bouger. Son excitation n'a d'égal que la mienne. Je repousse les couvertures du pied et retourne mon oreiller comme par une brûlante nuit d'été. Quelque part, un coq chante. À tort, car le soleil est encore de l'autre côté de la terre.
Buddy, t'es réveillé ?
C'est mon ami qui m'appelle depuis sa chambre voisine de la mienne. L'instant d'après, elle est assise sur mon lit, une bougie à la main.
Impossible de fermer l'œil. C'est la sarabande dans ma tête. Buddy, tu crois que Mrs. Roosevelt va servir notre cake à son dîner ?
Nous nous blottissons l'un contre l'autre dans le lit et elle prend ma main dans la sienne.
Je pensais que ta main était beaucoup plus petite. C'est terrible de te voir grandir. Quand tu seras grand, on sera encore amis ?
Pour toujours, la rassurai-je.
Mais je suis bien triste, Buddy. J'aurais tant voulu t'offrir un vélo. J'ai essayé de vendre le camé que papa m'avait donné, Buddy. Je t'ai encore fait un cerf-volant.
Je lui avoue alors que moi aussi. Et nous rions. La bougie est trop petite pour brûler encore. La voilà qui s'éteint en laissant place à la lumière des étoiles. Ces étoiles qui défilent à la fenêtre comme une étincelante chorale de Noël que, doucement, tout doucement, le jour naissant réduit au silence. Sans doute, nous assoupissons-nous, mais les lueurs de l'aube nous saisissent comme un jet d'eau froide. Et nous voilà debout, les yeux grands ouverts, à faire les 100 pas, en attendant que les autres se réveillent. Mon ami fait tomber exprès une bouilloire sur le sol de la cuisine. Je fais des claquettes sur le seuil des portes closes. Un à un, les occupants de la maison apparaissent, avec sur le visage une envie de nous tuer tous les deux. Mais impossible, puisque c'est Noël. D'abord, un plantureux petit déjeuner, avec tout ce qu'on peut imaginer, depuis les biscuits d'avoine jusqu'au rayon de miel, en passant par l'écureuil frit et la bouillie de maïs, ce qui a le don de mettre tout le monde de bonne humeur, sauf mon ami et moi. Car, tout à notre impatience d'ouvrir les cadeaux, nous sommes incapables d'en avaler une bouchée. Pour tout dire, je suis déçu. Comment ne pas l'être par des chaussettes, une chemise pour l'école du dimanche, des mouchoirs, un tricot déjà porté et un abonnement d'un an à un magazine religieux pour enfants, Le Petit Berger. J'enrage, il n'y a pas d'autre mot. Mon ami a eu plus de chance. Un sac de mandarines, c'est son plus beau cadeau. Elle n'est pas peu fière, pourtant, du châle de laine blanche tricoté par sa sœur mariée. Mais le cadeau qui la touche le plus, dit-elle, c'est le cerf-volant que je lui ai fabriqué. Et, de fait, il est magnifique. Pas autant quand même que celui qu'elle a fait pour moi, bleu et constellé d'étoiles de bonne conduite, or et verte. Et puis, mon nom est peint dessus. Buddy.
Buddy, il y a du vent.
Le vent souffle et nous n'avons qu'une hâte, galoper jusqu'à une prairie en contrebas de la maison où Queenie s'est déjà précipitée pour enterrer son os et où l'hiver suivant, elle sera enterrée à son tour. Là, plongés à mi-corps dans l'herbe grasse, nous libérons nos cerfs-volants, nous sentons leurs saccades sur la corde tandis qu'ils nagent dans le vent comme des poissons célestes. Comblés, baignés de soleil, nous nous étendons dans l'herbe et épluchons des mandarines en suivant les gambades de nos engins. J'en oublie bientôt les chaussettes et le tricot de deuxième main. Je suis aussi heureux que si on avait gagné les 50 000 dollars au concours du café.
Mais quelle idiote ! Tu sais ce que j'ai toujours cru ? J'ai toujours cru que pour voir le Seigneur, il fallait être malade et mourant. Et j'imaginais que sa venue ressemblerait à un vitrail baptiste. Belle comme du verre de couleur quand le soleil coule au travers, d'un tel éclat qu'il fait oublier l'arrivée de la nuit. et c'était un réconfort de penser que cette lumière chasserait tout sentiment de peur. Mais je parie que ça n'arrivera jamais. Je parie qu'à la fin des fins, on comprend que le Seigneur était déjà parmi nous. De voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont toujours été, c'est voir Dieu. Moi, je pourrais quitter ce monde avec cette journée dans les yeux.
Ce sera notre dernier Noël ensemble. La vie va nous séparer. Ceux qui décident pour nous ont jugé que ma place était à l'école militaire. S'égrène alors un sombre chapelet de prison où résonne le clairon, de tristes camps d'été rythmés par les sonneries de réveil. J'ai aussi une nouvelle maison, mais elle m'indiffère. Ma maison, c'est là où est mon ami, mais plus jamais je n'y vais. Et c'est là qu'elle habite, là qu'elle trotte autour de la cuisine, seule avec Queenie, puis toute seule.
Mon cher Buddy,
m'écrit-elle de ses indéchiffrables pattes de mouche.
Hier, le cheval de Jim Messi a donné un mauvais coup de sabot à Queenie. Heureusement, elle n'a pas beaucoup souffert. Je l'ai enveloppée dans un drap de toile fine et je l'ai descendue dans le landau jusqu'auprès de Simpson où elle retrouvera tous ses os.
Pendant quelques années, elle continue chaque mois de novembre à cuire ses cakes sans l'aide de personne. Pas autant qu'avant, mais quelques-uns tout de même. Et bien entendu, elle m'envoie toujours le fleuron de la fournée. De même que dans chacune de ses lettres, elle glisse une pièce de 10 cents enveloppée de papier toilette.
Va au cinéma et raconte-moi l'histoire.
Mais peu à peu, dans ses courriers, elle a tendance à me confondre avec son autre ami, le Buddy, mort dans les années 1880. De plus en plus souvent, elle passe au lit d'autres journées que le 13. Puis, vient un matin de novembre, un matin annonciateur d'hiver, sans feuilles et sans oiseaux, où elle n'a plus la force de se soulever pour s'exclamer.
« Ah, mais ça, c'est un temps à faire des cakes !»
Et quand c'est arrivé, je l'ai su. Un message m'annonçant la nouvelle n'a fait que confirmer ce qu'en moi, quelques fibres secrètes m'avaient déjà appris. Il m'arrachait une irremplaçable partie de moi-même, désormais libre comme un cerf-volant sur son fil rompu. Voilà pourquoi, traversant à pied le périmètre de l'école ce matin-là, 2 décembre, je suis resté à scruter le ciel, comme si je m'attendais à y voir, un peu comme deux cœurs, un couple de cerfs-volants égarés filant vers le paradis.
Eh bien voilà une belle histoire.
Quelle poésie. Deux cerfs-volants.
Bah oui. Ça nous a laissé bouche bée d'ailleurs.
Bah, un peu. Hein.
On n'a pas redémarré. Alors, donc Truman Capote. Bon, on avait fait toute une émission sur lui, mais on vous redit deux mots. Hein, parce que,
quand même. Bah,
bien sûr, tout le monde n'écoute pas nos émissions très régulièrement, forcément. Hein.
À tort,
certainement. Alors, Truman Capote, donc c'est un écrivain américain qui est né le 30 septembre 1924 à la Nouvelle-Orléans et décédé le 25 août 1984 à Los Angeles. Donc, il est l'auteur de romans, nouvelles, reportages, des portraits, des récits de voyage, souvenirs d'enfance, comme la nouvelle là, qu'on vient d'entendre, ainsi que de 2 adaptations théâtrales de ses écrits antérieurs et de 2 scénarios de films. Et on peut citer parmi les livres qui ont été adaptés au cinéma, donc Un petit déjeuner chez Tiffany avec Audrey Hepburn.
Diamant sur canapé.
Voilà, Diamant sur canapé. Et, ou encore De sang froid. Et donc, il y a eu plusieurs films tirés de ce roman-là.
Roman. Tu sais que La robe fourreau, je l'avais dit, je crois, lors de la précédente émission, La robe fourreau d'Audrey Hepburn, c'était une robe signée Givenchy qui a été adjugée en 2006 600 000 euros chez Christie's.
Pas rien, pas vrai.
Voilà.
C'est bien, c'est bien.
C'est beau. C'est ça qui est bien. Hein.
Bah oui, pour le réveillon là, une petite robe noire, c'est la petite robe noire qu'il faut toujours.
Voilà.
Bon, celle-là n'est pas de Chanel, mais
mais
Givenchy, c'est lui qui a toujours habillé Audrey Hepburn. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur Truman Capote, faut aller sur les podcasts Et comme ça, réécouter l'émission qu'on a fait sur lui.
Un sacré personnage.
Voilà. Et je crois que tu voulais ajouter quelque chose sur Tolkien.
Oui, j'avais un petit extrait du Seigneur des Anneaux de Tolkien que je trouve c'est assez simple, mais en même temps, c'est un peu philosophique. Donc,
c'est ce qu'il nous faut en fin d'année, comme ça.
Pour terminer. Hein. Alors, voilà ce qu'il écrivait dans le tome 1 du Seigneur des Anneaux. Tout ce qui est or ne brille pas. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Le vieux qui est fort ne dépérit point. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. Des cendres, un feu s'éveillera. Des ombres, une lumière jaillira. Renouvelée sera l'épée qui fut brisée. Le sang couronne sera de nouveau roi. Un peu d'espoir.
Voilà, très bien, très beau, très beau. D'ailleurs, il y a un film aussi, un biopic, comme on dit maintenant, qui a été fait sur Tolkien.
Ah, ça doit être bien.
Voilà, donc c'est sympa. Eh bien, on va vous souhaiter... Alors, Noël est passé maintenant. Donc on espère que vous avez passé un très joyeux Noël.
Il faut se repréparer le foie pour le réveillon.
Voilà, et que maintenant, vous êtes fin prêt pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et donc, on va vous souhaiter une excellente nouvelle année.
Et bonne fête à Sylvestre.
Voilà. Donc, à très bientôt. Allez, on vous laisse écouter 30 secondes à un peu de musique de Noël. Et on va vous mettre notre petit générique. Voilà.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.